Roy Rogers and the Delta Rhythm and Kings en live, grâce à l'un de nos invités, François Dauphin, aujourd'hui. Le studio du Triple 6 est en train de se transformer en juke joint avec l'arrivée de Alexandre Le Sueur et Alain MGC. On commence à être un petit peu nombreux, il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut, il y a les gens pour nous acclamer. Voilà, on est ensemble jusqu'à 17h. Cette émission dure donc 4h. Ça fait déjà 2h qu'on est ensemble et qu'on prend beaucoup de plaisir à discuter autour du blues, autour d'un verre, autour de cette passion qui nous dévore un peu tous. François, merci pour cette version. Elle ressemble pas du tout à la version originale de Robert Johnson, parce que c'était plutôt un truc comme ça. Je sais pas si tu te souviens. Voilà, Robert Johnson, je crois qu'on est dans les années, tu vas me corriger, 36, 37.
36, 37, c'était ouais. Ah oui, t'es sûr?
C'était San Antonio, c'était Texas.
Je croyais que c'était plus tôt, mais...
Pendant ce temps-là, il y a donc François qui me passe un autre album de Roy Rogers. Celui-là, je ne l'ai pas non plus, c'est un Blind Peak des années 80. Slide Winder.
Oui, alors, tout à fait. Donc en fait, tu as une autre version de Terrible in Blues.
D'accord.
Avec John Lee Hooker au chant.
Tu me le prêterais pendant genre une semaine?
Ah bah écoute...
Sinon, c'est vrai?
Bah oui, très bien.
Ouais, et bah écoute, j'écouterai ça avec grand plaisir, avec intérêt. Je me tourne vers Arnaud, qui lui aussi nous a apporté des disques, et notamment un album de Buddy Guy. Moi, quand j'ai lancé cette invitation, je me doutais bien que l'un de nos invités allait nous parler de Buddy Guy, parce que ça avait été le cas quand on avait fait la millième. Je crois qu'on avait eu deux ou trois invités qui avaient tenu à venir avec un disque de Buddy Guy, mais pas cet album-là. C'est pas le plus connu ni le plus vendu de Buddy Guy. Pourquoi ce disque, Arnaud ?
Ben, tout simplement parce que c'est le premier vrai disque de blues que j'ai eu dans ma discothèque. C'est vraiment c'est ce disque qui m'a fait vraiment pénétrer cet univers du blues, alors que bon, j'avais déjà un peu abordé par différents autres artistes, hein. Moi, j'écoutais des choses du style, enfin, qui ont un pied dans le blues, hein, du Dire Straits, du J.J. Cale, du Eric Clapton, évidemment, mais un artiste vraiment comme ça dans les racines, enfin, dans ce que moi j'imaginais ou je considère comme les racines du blues, voilà, c'était mon premier disque. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Effectivement, tu le dis, hein, c'est pas forcément le plus connu, mais voilà, pour moi, il veut dire quelque chose. C'est mon entrée dans le blues.
Et à l'époque, il avait été enregistré dans un club qu'il possédait.
Oui. Hein,
je crois qu'il avait racheté ça juste pour pas que ça ferme, le Checkerboard.
Je suis pas un expert, mais effectivement, c'est l'histoire que j'ai entendue. Et bon, maintenant, c'est le Buddy Guy Legends. Mais,
oui.
Mais en tout cas, celui-ci, oui, j'avais entendu cette histoire-là également.
Alors, Buddy Guy, on ne le présente plus. Buddy Guy, il est toujours vivant, il est toujours là parmi nous. Cet été, il va sur ses 83 ans.
Ouais, c'est incroyable. Il est très vivant, d'ailleurs, je le sais, puisque je l'ai vu en concert il y a 3 mois à Paris. Là.
Ah oui, raconte-nous un peu.
J'ai eu la chance, on m'a offert aussi l'occasion d'aller le voir à la salle Playel. C'était quand c'était en novembre.
Novembre.
Et j'étais super content parce que Buddy Guy, je l'écoute depuis très longtemps, mais je l'avais jamais vu sur scène.
Il y avait Olivier Gauthier en première partie.
Il y avait Olivier Gauthier, et alors là, la claque. Hein. Vraiment, sur scène, tu nous l'avais fait découvrir à la radio, mais alors le voir sur scène, c'était bluffant. Donc c'était vraiment une belle soirée. Buddy Guy, c'était la première fois que je le voyais. Je me suis dit, jamais avoir vu Buddy Guy, il faut que je le voie une fois. C'est Buddy Guy, quoi. C'est la bonne humeur. C'est génial.
Si vous voulez faire plaisir à Arnaud Didier, offrez-lui une place de concert.
Vraiment. Oui, vraiment, vraiment.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais déjà ta place en poche pour Joey Bonamassa. Je me suis dit, il va m'apporter un disque de Joey Bonamassa en deuxième choix.
Non. C'est bon, Joey Bonamassa, j'aime bien parce que effectivement, moi, le blues, j'aime beaucoup le blues. Le blues, c'est assez large. Bon, faut reconnaître que moi, le blues, à partir du moment où il y a de la guitare, ça va bien, quoi. Quand il y en a pas, c'est un peu plus difficile. Donc Joe Bonamassa, évidemment, il y en a. Quand elle joue fort, j'aime bien aussi. Et là, c'est pareil. J'ai ma famille qui m'a fait le grand plaisir de m'offrir. Parce que, en fait, le 28 avril, c'est juste après mon anniversaire. Donc, voilà.
Très bien.
J'y serai.
Arnaud, on va écouter Buddy Guy. Donc, ce live at the Checkerboard Lounge à Chicago, ça date de 1979. Et tu m'as dit de choisir un titre.
Oui. Là, je te laisse la main.
Et on va écouter Don't Get Over You, s'il vous plaît, dans la radio.
Got so bad that you knew it was a crying shame. Done got over you, I done got over you. I didn't want you to be no angel, neither no gal for joy. And all I want was just some good woman just to love me like a toy. And I done got over you. Oh, I say I done got over you. Oh Lord, I done got over you. I done got over you ever last. Hey Philip.
C'était Buddy Guy, enregistré au Checkerboard Lounge en 1979, un album apporté par Arnaud Didier. Donc voilà, on a failli laisser le morceau suivant se poursuivre. On est ensemble sur Radio 666, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1052 aujourd'hui, pour fêter les 36 ans de radio et puis les 27 ans de cette émission Sweet Home Chicago qui a démarré donc en février 1992. L'émission dure jusqu'à 17h. On est ensemble pour cette troisième heure avec Arnaud qui a un deuxième coup de cœur à nous proposer, un groupe beaucoup plus contemporain, j'ai envie de dire, et même beaucoup plus présent pour nous ici en Normandie. Je te laisse nous les présenter, Arnaud.
Ben, effectivement, alors surtout n'allez pas croire que j'ai sorti la brosse à reluire. Je suis content qu'il y ait deux féminins représentants de ce groupe. Donc j'ai amené l'album des Barn Guys.
Ouais.
Alors pourquoi ? Alors bah parce que déjà je l'aime beaucoup. Et puis surtout il est pour moi un peu un symbole de ce que j'ai découvert récemment. Voilà le blues. On connaît tous et moi je connais beaucoup les artistes très connu, qui joue depuis très longtemps. On a écouté des morceaux qui datent des années 30. Ces deux, trois dernières années, et là encore, encore brosse à reluire, Marc, pour toi cette fois-ci, je suis désolé, mais tu as vraiment contribué à me faire, à insuffler quelque chose de nouveau, à me faire redécouvrir des choses que, j'avais tendance à ronronner un peu sur des choses très connues. Et grâce à ton émission, les concerts que tu programmes au Soubok, ça m'a éclairé un peu sur des choses un peu nouvelles. Et les Barn Guys en sont une illustration parmi d'autres. Donc j'ai choisi celui-ci.
On va saluer Alexandre qui peut se rapprocher du petit micro à côté de celui de Laurent. Alexandre, le chanteur des Barn Guys, comment tu ressens ce genre de petit hommage, Alexandre ?
C'est très flatteur, c'est gentil, je ne savais pas, merci beaucoup.
Laurent, qui est l'un des deux guitaristes des Barn Guys, voilà.
Je la même chose que Alex, je suis ravi. Je ne vais pas dire le contraire, si tu veux.
Alors Arnaud, je crois que tu m'avais dit de passer Midnight Lover, c'est ça ?
Ah oui, la première. Elle entame l'album et puis elle donne une pêche, cette chanson, c'est assez incroyable. Et j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais vraiment les...
The Barn Guys.
Midnight Lover.
Voilà, Midnight Lover, il y a du monde dans le studio. Il y a tous les gens que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis ensuite, on rajoute Sweet Shunat et Thierry Langrand. Et puis ça nous met pratiquement au complet, à l'exception d'Eric Douady qui était au téléphone tout à l'heure. Tous les invités sont bien arrivés dans le studio. Voilà, c'était les Barn Guys grâce à Arnaud Didier. Moi, je dis qu'on veut faire un triomphe à Arnaud Didier d'avoir choisi ça.
C'est vrai.
Ah bah ouais.
Non mais surtout bravo à ceux qui le jouent.
Ouais. Enfin le batteur accélère un peu, mais sinon.
Ouais. Le batteur il est pas là en plus, Laurent. C'est un peu dégueulasse ce que tu viens de dire.
Non, mais c'est parce qu'on vient de l'avoir au téléphone. On lui a dit qu'il accélérait un peu.
Il pourrait venir en fait, Marc.
Il va arriver bientôt. Mais je préfère le dire quand il est pas là parce que quand il est là, il est beaucoup plus fort que moi. Donc.
C'est son côté karatéka ou boxeur qui te.
Les deux. Les deux me font un peu peur.
Je pense. Laurent, puisqu'on parle ensemble, ce serait bien que tu nous présentes ton premier disque, parce que ça, c'est un truc qui est sorti il n'y a pas 15 jours comme celui-ci, mais il y a plutôt 45 ans, ou voire plus, je ne sais plus exactement.
70.
1970, ça va faire 49 ans maintenant. Que ce disque-là te marque depuis le début, ce n'est pas tout à fait ton premier album.
Non, le premier album que j'ai acheté, c'était Live at Leeds Day Who, mais je ne l'ai pas en CD, je l'ai qu'en vinyle, il passe plus très bien.
Les vinyles, ça passe ici.
Ouais, mais là, mais il craque vraiment beaucoup.
Il faut le remplacer.
Donc j'ai pris celui-là, qui est le deuxième disque que j'ai acheté, que j'ai découvert. Et alors j'ai pris les Stones parce que, bon, on parle pas mal de blues. Moi, je suis pas un puriste du blues. J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses.
C'est quoi un puriste du blues?
Enfin, quelqu'un qui écoute que du blues. Moi, je m'y connais pas beaucoup en histoire du blues. J'adore le blues. J'aime plein de musique. Mais surtout, j'y suis venu par les Stones, quoi. Et puis, on parlait des Anglais tout à l'heure et des Américains. C'est les Anglais, quand même, qu'on fait quelque part redécouvrir aux Américains leur propre musique. Les Stones ont un peu triché quand même de temps en temps en signant des morceaux qui étaient écrits notamment par Robert Johnson, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Oui.
Bon voilà, après ils sont revenus un peu. Enfin, je pense qu'ils ont été obligés. Ils n'ont pas eu le choix de revenir à un peu plus de considération pour ces gens-là. Mais quand tu écoutes Keith Richards, voilà, c'est quand même un grand fan de blues. Et donc je suis arrivé au blues par ce truc-là, entre autres. Alors le premier morceau des Stones que j'ai découvert, c'était le Gimme Shelter, mais le premier album que j'ai acheté, c'était Get Your Ears Out. Et je me suis pris une grosse claque. Déjà rien quand le monsieur cause dans le micro pour annoncer les Stones, cette espèce d'introduction bizarroïde sur cet album-là. Et puis mais bon, j'aurais pu choisir n'importe quel autre titre de l'album. Hein. C'est voilà. Puis cette pochette un peu bizarre aussi d'ailleurs.
Alors à une époque où le Jagger ne s'écoute plus mais se boit par les jeunes, est-ce que ça mérite encore une oreille, j'allais dire, attentive par les nouvelles générations? Un disque de 1970, qu'est-ce que tu dirais pour défendre tes passions d'antan?
Bah, je sais pas, écoutez, qu'est-ce que je te dis? non, mais j'ai pas besoin, enfin, je sais pas, il faut pas. On parlait de famille tout à l'heure, moi j'ai un fils qui a 30 ans, et il a été nourri à ce truc-là. Alors, il écoute plein d'autres choses, des trucs que je peux absolument pas écouter, parce que, on parlait de rap, c'est vraiment pas mon truc. Mais en tout cas, je pense que lui avoir fait écouter toutes ces musiques-là, ça lui a ouvert un horizon énorme et il écoute plein de choses. Et c'est vrai que je suis pas peu fier parce qu'il est capable de reconnaître des guitaristes d'il y a 50 ans dès la première note. Ça, c'est plutôt bien. Mais voilà, je sais pas. Enfin, j'en ai un jeune à côté de moi. Oui. Il a l'âge de mon fils.
Alexandre,
en plus, donc,
Alexandre, prends le micro. Donne-lui le micro. Qu'est-ce qu'ils font tes parents?
Ce qu'ils font mes parents? Mon père est à la retraite. Ma mère a travaillé aux impôts.
Ils sont pas dans la salle?
Quoi?
T'es venu tout seul?
Ouais, je suis venu tout seul.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu penses des Rolling Stones, Alexandre?
Ah, ça reste un groupe mythique, bien sûr. Ouais. Tu peux pas remettre ça en cause. C'est un monument.
Est-ce que j'ai une autre question? Est-ce que un jour tu vas trouver un manager suffisamment capable de te faire faire une première partie des Rolling Stones?
Ça, je ne sais pas.
On en connaît un, mais
Il
faut qu'on discute hors sujet.
Ça marche. On écoute le morceau, Laurent?
Ouais.
On écoute ça. Les Rolling Stones dans la radio.
Watch it.
Voilà, Laurent, premier extrait que tu nous as apporté. On est en 1970, on redécouvre les Rolling Stones. Ouais. Les Rolling Stones, on en parlait à l'instant avec, avec d'autres invités qui enregistraient il y a deux ans un album purement blues qui s'appelle Blue on the Zone.
Voilà, et j'ai hésité à l'amener en deuxième disque. Ouais. Bon, puis j'ai fait un autre choix, mais parce qu'ils ont fait un superbe album de blues, quoi. C'est bah quand même assez sidérant, quoi.
C'est Jacques qui nous disait ça, en fait. Il aurait pu l'apporter lui aussi.
Ouais.
Ils avaient retrouvé le son 1963.
Je pense qu'ils ont toujours eu ce son-là, si tu veux. Alors c'est vrai, quand tu écoutes l'ensemble de leur œuvre, il y a des choses un peu bizarroïdes, ça part dans des trucs des fois qui sont plus très inaudibles 25 ans plus tard. Enfin, pas très bon, quoi. Mais quand tu écoutes quand même leur grande période 68, 72, 73, voilà, ils ont un son et qui est quand même issu des vieux bluesmen. Voilà, ils savent faire ça, quoi. Il y a notamment un album qui s'appelle Stripped, qui date des années 80, je crois que c'est 95, qui a été pas mal enregistré en tournée, où ils refont Love in Vain, ils refont des vieux blues. Et bon, les cochons, ils savent faire ça, quoi. Donc voilà.
Je m'étais dit que tu allais nous apporter un truc complètement différent, et voire pas blues, exprès, juste. Voilà, je sais pas, un truc Robin Ford un peu jazzy, ou un Joe Scofield, ou alors un Little Feat, enfin.
Alors j'ai hésité longuement. En fait, j'ai failli amener un truc qui n'avait vraiment rien à voir, qui est un album de Roseanne Cash. Donc plutôt country.
La fille de Johnny Cash. D'ailleurs, il serait peut-être temps qu'elle touche son héritage.
Ça, je ne sais pas. Faut que tu demandes à Laetitia, c'est elle qui gère, il paraît. Et donc.
Il m'énerve, il rebondit à tout.
qui a fait depuis une dizaine d'années, un petit peu plus peut-être, quatre albums magnifiques.
Roseanne Cash.
Voilà, oui. Qui a fait, et notamment un qui s'appelle Black Cadillac, qu'elle a fait juste après la mort de son père. Parce que pour moi, c'est une œuvre absolument. Enfin, moi, je peux partir avec sur une île déserte. S'il y a que ce disque-là, ça ne me dérangera pas. Mais j'ai fait un tout autre choix. J'ai choisi l'album de Clapton en hommage à J.J. Cale. Parce que pour moi, J.J. Cale reste une espèce de modèle indépassable. C'est un superbe album hommage. Et puis que Clapton, quand même, dans le blues, il a un peu sa place. Voilà.
Il y en a qui disent un peu, il y en a qui disent pas du tout. Moi, je dis, il a toute sa place.
Ouais. Et en plus, il y a un numéro de Rolling Stone qui vient de sortir sur Clapton, là, un numéro spécial qui est assez intéressant. Il y a le film qui vient de sortir, enfin, qui est déjà sorti, mais qui sort en France, là, qu'on a du mal à voir, là, s'il passe pas dans la région. Voilà. Bon, pour moi, Clapton reste indépassable. On parlait de Bonamassa tout à l'heure. Bon, moi, je suis pas un grand fan de Bonamassa, je le dis d'emblée, mais voilà, Clapton est largement au-dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la sensibilité qui est. Mais c'est mon avis.
Clapton
hein.
1, Bonamassa 1.
Ouais, c'est mon avis. Je trouve que il a une espèce de feeling qu'a pas Bonamassa.
Ah non, vas-y, il y a le micro vert.
Vas-y, on va voilà.
Le micro vert est ouvert.
Non, je disais tout à l'heure, c'est une occasion pour moi d'aller voir Joe Bonamassa parce que c'est de la guitare et que j'aime ça. Mais je suis complètement d'accord. Clapton est largement, en tout cas pour moi,
en feeling, en technique, Bonamassa est très très bon. Il n'y a pas de photo quoi. Et puis donc voilà. Et puis c'est alors j'ai failli amener la version de John Mayer de Call Me the Breeze parce que je regarde Alex parce que c'est un grand fan de John Mayer.
Mais oui, puis d'ailleurs il a fait un choix également, Alexandre.
Bon voilà, donc qui est très très bonne version. Mais bon voilà, j'ai pris celle-là parce que aussi Clapton quand il parle de J.J. Cale, et puis je vais terminer là-dessus, la boucle va être bouclée. Il dit il y a deux personnes qui m'ont vraiment extrêmement influencé, c'est Robert Johnson et J.J. Cale. Mm. Voilà.
Très bien.
Donc on y va ?
Mais oui. Voilà, c'était donc Monsieur Eric Clapton, non pas imitant J.J. Cale, mais transcendant J.J. Cale. C'est pas ça, Laurent, qu'il faut dire ?
Oui, transcendant J.J. Cale, oui. Puis il y a un bon monde dessus, parce qu'il y a, plein d'invités. Il y a Tom Petty, il y a Knopfler, il y a John Mayer, entre autres.
Ouais. Alors merci Laurent, de toute façon je crois qu'on va avoir droit à quelques petites notes tout à l'heure, parce que tu nous fais voir, tu nous fais entendre juste que ça, voilà, juste...
Ça c'est une guitare, ouais.
Ça c'est pas une guitare, c'est parce qu'il y a 6 cordes, tu dis ça. Je te connais en fait, c'est pour ça.
Elle est presque comme celle de Roy Rogers. Attends, je voulais juste dire un truc à ce propos-là, qu'on en parlait tout à l'heure, d'abord de moi, MC Dance, mec là, parce qu'arriver à sortir, il joue sur une acoustique hein, quand même, donc ça s'entend pas beaucoup, amplifié avec un micro, mais... Et en fait, j'entendais tout à l'heure, on parle souvent de la main gauche, et les gens ont tendance à regarder la main gauche du guitariste pour être en disant « je suis impressionné », mais moi je suis plutôt impressionné par sa main droite, je parle d'un droitier. Hein.
Oui, on est d'accord.
Voilà. Et parce que souvent on oublie de regarder, et c'est quand même, c'est ce qui fait la précision, et c'est ce qui demande des fois le plus de travail. Donc voilà, je voulais juste dire ça, parce qu'il a aussi une main droite phénoménale. Voilà.
Alors ça, c'est ce qu'on dit, on parle de la main gauche, de la main droite, pardon, surtout pour les pianistes. Je rebondis sur ton voisin Alexandre, parce que toi, tu joues du piano, Alexandre, il me semble. Tu n'es pas seulement chanteur des Barangays, tu es également claviériste. La main droite, c'est ce qui est le plus important ?
Pas forcément.
Pas forcément ?
Non. La main gauche aussi.
En général, on vous voit moins souvent vous servir de la main gauche.
En groupe, ouais. Hein ? Je pense en groupe, ouais. Mais en solo aussi, c'est super important.
Alors, important pourquoi ? Pour changer la tonalité, pour monter le volume, ou pour être vraiment sur les touches et assurer une basse ?
Pour ta main gauche, bah c'est ta basse, c'est ton support. Ouais. Tu poses ta main droite dessus après. Donc, si t'as pas la main gauche qui suit, c'est mort. Tu poses quelque chose sur un truc bancal. Tu vois ?
On a des musiciens autour de cette table. On a Laurent Choubrac, on a Alexandre Le Sueur. Ouais. Il y en a également Charles Ducroux, qui est juste à ta droite. Charles, donc, qui est guitariste et chanteur du groupe Los Carcombo.
Bonjour.
Ah, comment vas-tu ?
Bah, plutôt bien.
Ça fait un moment que tu es là, que tu nous écoutes parler, et tu dis, mais hey, c'est quand mon tour ? Quand est-ce que je parle ? Bah, c'est tout de suite.
Ouais, j'allais me barrer, là. Donc,
Alors, tu n'es pas venu les mains vides parce que tu as apporté ici un tableau qu'on voit tous là dans le studio. C'est pas très radiophonique ce que je vais dire, mais tout le monde a compris que ça représentait Buddy Guy. C'est une autre corde à ton arc, et tu n'as pas un arc, tu as plusieurs arbalètes à ta disposition. Tu es artiste peintre, guitariste, chanteur, compositeur, et j'en oublie forcément.
Oui, mais enfin, après, à différents degrés. Enfin, je suis musicien amateur.
Musicien amateur.
Et la peinture, j'essaye d'en faire mon métier, donc c'est un peu différent.
Alors, là, ici, autour de la table, on avait des passionnés, on avait des musiciens, on avait des musiciens passionnés, d'ailleurs, il n'y a que ça, et qui disent tous, ou presque, à une exception près, la musique, ça vient en deuxième, il y a d'abord un métier pour manger. Ton métier de bouche, j'ai envie de dire, c'est artiste peintre, maintenant.
Maintenant, oui.
Ça fait longtemps ?
Non, ça fait 4-5 ans, je crois.
Moi, j'ai une anecdote, et je reparle avec, pour témoin, tous les autres invités de ce studio, de toi, Charles, en train de peindre en direct pendant le festival Franqueville-Saint-Pierre, à côté de Rouen. Pas forcément devant le public, parce que c'était un petit peu sur le côté, et tu as dû faire une trentaine d'œuvres comme ça, au fil des deux ou trois concerts qui sont succédés. Avec une rapidité déconcertante et une patte qui n'appartient qu'à Charles Ducroux, qu'à toi. Voilà, moi j'étais vraiment admiratif de ce travail-là. Je voulais savoir comment tu faisais pour t'inspirer du moment et puis paf, ça déroule quoi.
C'est une technique. Enfin, c'est-à-dire que j'ai commencé par pratiquer ce qu'on appelle le modèle vivant, donc des femmes nues qui posent langoureusement devant moi.
Ouais.
On n'a pas des métiers faciles.
C'est pas désagréable.
Sauf que c'est des poses, quand on pratique ça, c'est des poses de généralement 3 minutes, maximum 7 minutes.
Faut être rapide.
Donc c'est l'exercice de la spontanéité. Voilà. Et après, donc on se retrouve devant une scène avec des musiciens qui bougent. Mmh. Quand on a pratiqué ça pendant de longues années, ça aide. À effectivement lâcher prise et aller directement à l'essentiel.
Ça touche à l'happening, on pourrait dire, presque, Charles.
Oui, c'est un genre de performance. Bon, après, il y a beaucoup acheté dans le résultat, mais, mais c'est vrai que c'est toujours, je pense, un peu impressionnant pour les gens qui voient le truc en train de se faire.
Complètement. Enfin, moi, j'avais été scotché, je te le dis, et je te l'ai dit, et je te le redis là. Et donc, ce tableau de Buddy Guy, il fait partie de plusieurs... plusieurs tableaux de bluesman, plusieurs portraits de bluesman que tu fais d'après photo, j'imagine.
Oui, parce que la plupart sont morts déjà, donc ce serait compliqué de les faire poser.
Voilà. Quels sont les artistes que tu as croqués ? Il y en a combien ? Une cinquantaine, facile, non ?
Oui, bah, y a tous les pionniers. Après, il y a des gueules qui m'ont plus inspiré que d'autres. Je pense à Mississippi John Hurt, par exemple, qui a un visage très particulier. Et puis après, des musiciens qui m'ont particulièrement inspiré, enfin, je pense à Skip James. Voilà, enfin, j'ai fait tous les pionniers, bah, parce que ça me tenait à cœur. Moi, c'est avant la peinture, la musique et particulièrement le blues ont été mes premières passions, quoi. Donc j'ai éprouvé le besoin de rendre hommage à ces artistes.
En tant qu'amateur de musique, j'étais persuadé, tu m'as apporté deux disques, tu nous les présenteras tout à l'heure, mais j'étais persuadé que tu allais nous apporter un Bachung.
J'aurais pu. Là, on est dans une émission consacrée quand même au blues.
Ah oui, mais Bachung, c'est un bluesman.
C'est vrai. Bah, écoute, je vais repartir, je vais chercher un disque. Non, j'aurais pu. Mais
ça aurait été quel disque? Ça aurait été quel morceau, tiens? Oh. La nuit, je mens?
Non.
Non. Je sais pas. Un extrait de Bleu Pétrole, un truc plus ancien.
Écoute, il y en a tellement là, je peux pas te répondre.
Alexandre, il a une idée. Il connaît Bachung sur le bout des doigts.
Sur le bout des doigts, bien sûr.
Franchement.
Ouais. Bah, la nuit, je mens.
La nuit, je mens.
Si on voulait faire un pont avec le blues, il y aurait.
Quel escroc.
Il y aurait le morceau J'écume, qui est un blues. Parce que Bachung avait cette faculté de s'approprier des styles, enfin particulièrement donc le blues. Quand il faisait un blues, c'était pas un blues, c'était une chanson de Bachung, et J'écume, c'est un bon exemple. Voilà, on n'est pas dans la caricature, quoi.
C'est un truc que tu fais également en tant qu'artiste, que tu reprends, parce que voilà, on l'a dit, tu es musicien, mais on n'a pas encore dit ou redit que tu fais partie d'un groupe qui s'appelle l'Oscar Combo.
Ouais.
Dans lequel tu officies en tant que guitariste, chanteur, compositeur, et puis j'allais dire un peu leader aussi, parce qu'il y a quoi derrière? Il y a juste un petit contrebassiste, un petit batteur.
L'idée, c'est Fred Toucard
et Pascal Hernandez qui sont là. C'est un trio, donc ça veut dire une formation assez ramassée, dans laquelle chacun prend sa place, bien entendu, mais il faut alimenter le truc. Bachung, ça fait partie de tes influences, tu peux pas
le dire. Énorme. Mais j'ai même pas pensé, parce que là, c'est vrai qu'ils nous demandaient de ramener des morceaux qui nous ont marqués par rapport au blues. Enfin voilà, donc j'ai pas pensé à Bachung en priorité, mais j'aurais pu.
Alors, tout pendant qu'on écoute quelques secondes de ce fameux J'écume, est-ce que tu peux nous présenter le premier artiste? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, parce qu'on parlait des Trois Kings.
Ouais.
C'est ça que tu voulais dire en premier, hein?
Bah, parce que c'est le premier disque de blues que j'ai écouté, donc forcément que ça marque. Et c'est mon frère qui avait ce disque-là en vinyle, donc c'est un disque de Freddie King qui s'appelle My Feeling for the Blues, le bien nommé. Et bah voilà, quand on a 15 ans, qu'on n'a jamais écouté de blues et qu'on tombe sur ce disque-là et on se dit mais c'est quoi ce bordel, qu'on vous dit ça c'est du blues, tu vois.
Et là tu dis je vais retenir finalement le nom.
Je m'en suis jamais remis en fait. Et je crois pas que ce soit considéré comme le meilleur album de Freddie King. Et pour moi, comme par hasard, ça, c'est un album qui reste indépassable. Voilà, et on parlait de Clapton tout à l'heure, et vous parliez des influences de Clapton, et je sais que Freddie King a fait partie des influences majeures, puisque Clapton a pu dire que Freddie King lui avait appris à faire l'amour à une guitare. Donc c'est pas rien.
Freddie King, tiens, c'est marrant, on parle de Freddie King parce qu'on va l'écouter dans quelques secondes, parce que tu as porté cet album My Feeling for the Blues, et il y a 3-4 jours sur les réseaux sociaux, j'ai vu un extrait du titre Sweet Home Chicago, repris en live par Freddie King, version 1975, et juste à la fin du morceau, qui arrive sur scène pour aller acclamer et remercier Freddie King? Monsieur Guy Lux. Non mais vraiment, il avait invité Freddie King sur une de ses émissions.
J'ai failli amener son disque.
À Guy Lux ?
Oui, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Incroyable. Charles Ducroux, on écoute ça ?
Eh ben, volontiers.
C'est parti. Okay.
think you done killed enough. Look over yonder's wall, woman. Hand me down my walking cane. Yes, I'm looking out your window. Baby, yonder come your man. Myself, I wouldn't mistreat you, baby. Yes, for anyone else, but look over yonder wall, baby. Hand me down my walking cane. Yes, I'm looking out your window, and baby, yonder come your man.
Voilà, Freddie King, un morceau extrait de cet album My Feeling for the Blues, ici apporté par Charles Ducroux. Charles, tu nous as choisi un truc d'à peu près la même période. Tu m'entends, Charles ?
Oui.
De l'autre côté de la vitre. Après Freddie King, tu nous as apporté un disque à peu près de la même période, et puis pas tout à fait du même acabit, mais quand même là aussi un grand, tout à l'heure, Never Buddy Guy. Et maintenant, grâce à toi, on pourra revenir sur un certain
Junior Wells.
Alors l'harmonica, c'est un truc que tu connais ?
Oui, enfin, pas plus que ça. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Mais après, déjà, il y avait un lien avec cette toile que je t'ai ramenée. Donc Buddy Guy.
Ben oui.
Voilà. Et puis Junior Wells, j'ai eu la chance de le voir à Chicago, dans le club de Buddy Guy en 1996.
Au Legends.
Donc, ouais. Peu de temps avant sa mort, je pense.
Alors je crois qu'il est décédé en janvier 98, donc ça fait déjà 21 ans. Tu y allais, donc 96, voilà.
96, ouais.
Il était sur la fin.
Et donc je garde un très grand souvenir de ce mec qui avait une classe incroyable, dans un costard blanc impeccable, avec des bagousses partout, la Cadillac garée devant le club.
Ouais.
Enfin, c'était très très impressionnant, une gueule impossible, quoi. Et qui transpirait le blues, enfin, et tous les albums qu'il a fait avec Buddy Guy, je trouve que ça, c'est tellement expressif. Ouais. Il y a un truc qui dépasse. Je peux pas trouver les mots en fait pour le dire. Donc
il y a une collaboration de 10 ans entre Buddy Guy et Junior Wells. Ensuite, parcimonieusement, ils se sont revus, et ils ont fait deux trois petites choses, mais il y a eu un sommet. C'était toutes les années 70. Je laisse la place à Laurent là-dessus aussi.
Juste pour dire qu'ils ont fait la première partie d'une tournée des Stones. Junior Wells, Buddy Guy, je me demande si c'est pas celle de 69. Je parierais pas. C'était
69.
C'est peut-être celle d'après, je sais pas. Mm-hmm. Mais ils ont fait la première partie pendant un bon, enfin sur toute une tournée américaine, quoi.
En tout cas, il y a un double album de Buddy Guy et Junior Wells qui date de 1975, qui avait été enregistré au Japon, qui fait partie du panthéon du blues. Junior Wells, je sais pas, il y a beaucoup d'invités autour de la table qui ont vu Junior Wells en live. Moi, je me souviens d'un passage en 94 ou 15. De Junior Wells, c'était à Coutances, il était venu pendant le festival Jazz sous les pommiers, et là aussi il nous avait éclaboussé de sa classe, un petit gars d'un mètre 65 avec un super costume couleur framboise écrasée, qui était juste là avec sa gueule inimitable, et puis son harmonica, et puis son chant. Il a un chant, il avait un chant qui venait vraiment de très 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 bas, quoi. Tout ça pendant le délire de nos amis, non, invités.
Est-ce que nous, parce qu'on voit pas bien ce que c'est, framboise écrasée.
Ben, la couleur framboise écrasée, c'est la même chose que la framboise, mais un petit peu plus sombre.
D'accord.
Hein, voilà, tu vois. Non, c'est pour situer. Et Charles, tu nous as apporté un disque de Gino Wells qui s'appelle Udo Man Blues. À mon avis, ça fait partie des meilleurs disques que j'ai jamais enregistrés.
Je suis pas un spécialiste, mais en relisant la notice qui est à l'intérieur, j'ai réalisé que c'était apparemment un des premiers disques de la nouvelle génération du blues après les Muddy Waters et compagnie, que ces mecs-là ont constitué une nouvelle génération et qui ont été les premiers à enregistrer chez Delmark. Enfin, après, je connais pas bien l'histoire, mais
ouais, c'est chez Delmark.
Mais face à un disque fondateur, visiblement. Qui est archi simple, enfin, c'est un power trio, c'est complètement dépouillé, mais qui transpire le blues, qui est expressionniste pour moi, d'une intensité exceptionnelle.
Et tu as choisi un titre qui s'appelle Ships on the Ocean, c'est ça ?
Certainement.
Ouais. Il me semble que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure.
C'est le deuxième. C'est... Ouais. Non, je l'ai... parce qu'en réécoutant hier, je trouvais que ce titre reflétait bien ce côté très, très expressif et cette transpiration, je ne sais pas, c'est...
On écoute.
Voilà.
Ginger Wells.
Thank you.
Voilà, c'était donc Gina West avec, vous l'avez deviné, Buddy Guy derrière la guitare. Donc un choix de Charles Ducrot, Human Blues, Gina West, Chicago Blues Band avec Buddy Guy. C'était chez Delmark Records. Charles, on parlait tout à l'heure, enfin je t'ai parlé tout à l'heure, malgré que tu ne voyais pas en parler, d'Alain Bachung. C'est, pour moi, c'est un bluesman. Hein, c'est un peu fort peut-être.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Alors, si on remonte un peu, c'est voilà, il ne faut pas que ce soit non plus voilà, au niveau du retour. C'est bon, on est bon là, Laurent ? Je parlais à Charles de... je parlais de Alain Bachung et je disais que c'était un bluesman. Bon, il m'appartient pas forcément de le dire, en tout cas de le penser si. Je sais pas si c'est un truc qui est partagé par les collègues. Là, Laurent, juste vite fait pour toi, c'est quelque chose de justifié ou pas du tout? Enfin,
oh bah, je dis, enfin, je sais pas, c'est quoi un blues? Oui, enfin, c'est pas vraiment un bluesman au sens de sa musique, c'est pas du blues.
Non, mais pas au sens parlant. Voilà, pas au sens stricto sensu, on va dire.
Mais le blues, tu peux aussi l'avoir en faisant autre chose que du blues. Ouais. dans l'expression des choses, quoi. Et voilà, oui, on peut, je pense. Enfin, moi, je suis pas un grand spécialiste de Bachung, mais dans certains morceaux que tu entends, il peut en effet y avoir.
Oui,
des choses
très... il était imprégné de musique américaine, oui, donc, c'est ça. Mais pas seulement de blues, aussi de country. Oui. Je passe pour une caravane, c'est une balade country. Voilà, Osez Joséphine, c'est un morceau de Bo Diddley détourné. Enfin, il était imprégné de tout ça, quoi. Donc,
Charles, si on parle de l'Oscar Combo, c'est un trio, on en parlait tout à l'heure, qui est inspiré par plusieurs musiques, hein, c'est pas un trio de blues, il y a quand même plein de choses qui passent à travers cette espèce de filtre, ou cet entonnoir, j'ai envie de dire, de ces trois musiciens qui apportent chacun leur patte et puis leurs influences, évidemment. Est-ce qu'on peut qualifier l'Oscar Combo avec un seul style de musique, ou est-ce que c'est pas nécessaire, ou est-ce que c'est impossible?
Écoute, j'aurais pas cette prétention déjà, et puis... J'ai trop d'influence, enfin, moi c'est toute la musique américaine, donc il y a le rock'n'roll des années 50, voilà, qui m'a ensuite amené vers la country. Quand je me suis intéressé au rockabilly, j'ai compris que ça venait de là, le rhythm and blues.
Quand on écoute ça, par exemple. Big River, Johnny Cash.
Ouais. Voilà. Oui, bah Johnny Cash est un bon exemple de quelqu'un qui a fait la synthèse justement entre la country, le rock'n'roll, le blues, puisqu'il a joué aussi avec Bob Dylan. Enfin voilà, c'est un carrefour, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Et puis j'aime aussi cette idée de dépasser l'idée de ce blues qui serait la musique des Noirs et de la country qui serait la musique des Blancs. Et voilà, je trouve qu'il y a des carrefours. C'est, en fait, tous ces gens-là ont vécu au même endroit, à la même époque, et c'est la rencontre de toutes ces influences qui est intéressante.
Il y a un nom qu'on évoquait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, c'était Clarence Gatmans Brown. Et puis, on pourrait parler de Eddie Clearwater aussi, qui sont des gens qui se sont trouvés un petit peu à la croisée des chemins, comme ça, entre la country music et le blues, et qui sont d'authentiques Noirs américains. Qui étaient, malheureusement, je m'aperçois qu'ils ont disparu tous les deux. Est-ce qu'en 2019, on peut continuer à qualifier, à labelliser, à couper un petit peu les genres, les uns à côté des autres? Ou est-ce qu'il faut dire, bah maintenant, ce sont des musiques plurielles, ce sont des musiques augmentées, ce sont des musiques qui sont enrichies les unes des autres? Elle est con, ma question, hein, on est bien d'accord.
Oui, surtout, elle s'adresse peut-être à...
Non, mais s'adresse à Charles pour l'instant, mais après... elle s'adresse à toi, mais après, voilà, tu en fais ce que tu veux et tu peux la chiffonner et puis remplacer par une autre réponse.
Bah, écoute, moi, j'aime pas trop cette idée, effectivement, de s'enfermer dans un style...
C'est là où je voulais t'emmener, justement.
Voilà, donc, personnellement, j'ai beau être un grand fou de blues, je suis pas non plus un ayatollah... Voilà, je sais pas quoi te dire, en fait.
Juste parce qu'on parlait de quand je suis, la quand tu es avant de devenir un peu. Il y a la quand tu es FM qui passe à Nashville, donc on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais la musique quand tu es, les hillbillies et toutes ces choses-là, c'est des gens qui étaient aussi fauchés et aussi démunis que les Noirs. Alors ils n'étaient pas esclaves, à la limite, on va dire, mais. Ces deux musiques-là, par exemple, elles
viennent des mêmes difficultés de la vie, des mêmes expressions, des choses difficiles à vivre. Et quand ça se croise, bah, ça donne des influences qui se partagent, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage de couper les choses. Alors techniquement, on peut le faire. Bon, encore qu'en général, la seule différence, c'est que tu vas avoir trois accords dans le blues, trois accords dans la country, ils vont être majeurs ils vont être septième sur le blues et majeurs sur la country. Ça, tu peux faire des choses techniques, mais ça n'a pas tellement d'intérêt, si tu veux. Dans l'expression, je trouve que c'est des choses qui sont vraiment croisées et ça donne des choses. Selon les endroits des États-Unis, par exemple, tu vois bien. Enfin, tu parlais de Gatineau Brown et si tu parles de la Louisiane, tu vois bien un peu les influences qu'il peut y avoir.
On pourrait parler de Watermelon Slim aussi.
Mais de plein de gens comme ça. Mmh. Toi, t'as beaucoup, beaucoup d'influences. Tu parlais de Johnny Cash, en effet, c'est vraiment la synthèse entre le rock, le qui a pris au blues, la country. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Oui, et puis quand j'ai découvert moi, Jimmy Rogers, qui est vraiment un des grands pionniers de la country, j'ai appris que c'était lui le premier à avoir enregistré guitare-voix, alors qu'on pourrait imaginer que ça aurait plutôt été un vieux bluesman du Mississippi. C'était Jimmy Rogers, et les morceaux de Jimmy Rogers sont des blues, en fait, enfin, même dans leur titre. Donc déjà, ça fout tout en l'air, quoi. Enfin, on est au-delà de cette idée de blues des Noirs et country blanc.
Tu vois, tu voulais pas répondre à ma question, tu y as répondu parfaitement. Ah, non, mais mine de rien. Et donc, c'est ça qui nourrit l'Oscar Combo. Il n'y a pas de label à y apposer, mais enfin, ça veut dire quand même que vous allez être capable de vous imposer dans des festivals de blues, de jazz, de country, de rock'n'roll.
De jazz, on va éviter quand même.
Pourquoi donc?
Bah, parce qu'on connaît que trois accords, donc ça risquerait de paraître un petit peu faiblard. Enfin, ça, c'est le complexe, c'est le complexe du bluesman.
Laurent, tu peux rebondir là-dessus, parce que toi aussi, tu joues du jazz.
J'ai essayé. J'ai essayé pendant 20 ans, mais pas avec grand succès, au dire des jazz que je connaissais.
Des jaloux.
Non, mais c'est une musique un peu compliquée, le jazz. Enfin, ça peut être très élaboré, très complexe quand même, si tu veux. Mais en même temps, quand tu écoutes ta Dizzy de jazz, alors je parle souvent de celui-là, c'est le Kind of Blue de Miles Davis. T'as des blues, hein, du Soul Blues, c'est trois accords. Freddy Freeloader, c'est trois accords. Et So What, c'est trois accords. Enfin, c'est un petit peu plus complexe pour So What, parce que c'est un passage d'un demi-ton. Enfin, voilà. Mais quand t'écoutes le son, c'est du blues, hein. Moi, par exemple, il y a deux albums que j'aime énormément. C'est l'album, j'ai oublié le titre, mais l'album de Muddy Waters, qui est très, très épuré. Bon, ça va pas me revenir, c'est pas grave. Et l'album de Miles Davis, et tu mets les deux côte à côte, et il n'y a pas de différence.
Je ne vois pas de quel album de Muddy Waters tu parles, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas de celui qu'il avait fait en réponse à Woodstock sur la... Non, c'est pas ça. C'est pas le Woodstock album.
Mais ça me reviendra à une prochaine émission.
Tu vas être obligé de revenir comme ça. On poursuit avec l'Oscar Combo. L'Oscar Combo, moi j'ai envie qu'on écoute cette reprise que tu fais avec tes amis de Alain Bachung qui s'appelle J'écume. Mm-hmm. On écoutait quelques notes tout à l'heure. Charles, on écoute le morceau et je t'en parle juste après, tu veux bien ?
D'accord.
Les barges se gondolent dans le roulis. Ici on cuit au bain-marie. Un coup je te lave, un coup tu m'essuies. Ici on se botte, on se débecte. Et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Au large les barges se gondolent dans le roulis. Jour de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles et les bigorneaux. J'ai crié, éternué, te retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser.